10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos, Nicolas Barré, Mickaël Darmon.
Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Mickaël Darmon.
Le 8 mars 1918, Georges Clemenceau proclamait « Je continue de faire la guerre et continuerai jusqu'au dernier quart d'heure ». Toute la question est de savoir quand doit arriver ce dernier quart d'heure. C'est ce que demandent également les Français qui fournissent des efforts et des sacrifices aujourd'hui considérables, menacés par le Covid-19 et la catastrophe économique. Ils ont besoin de comprendre ce qui va se passer, mais aussi ce qui s'est passé dans la gestion d'un système hospitalier performant grâce à ses soldats, mais fragilisé par le manque de courage de ses dirigeants au sommet de la pyramide. Pour cette raison, entre autres, nous avons voulu vous inviter au grand rendez-vous, parce qu'en tant qu'ancien Premier ministre de François Hollande, vous allez nous éclairer sur les décisions prises par votre gouvernement. Non pas, bien sûr, pour mener une inquisition, mais pour apporter des précisions et pour comprendre les opportunités et les menaces de ces années 20 du 21e siècle. Manuel Valls, vous repartez toujours au combat, comme indifférent aux échecs et aux défaites. Mais les Français ont aussi un peu du mal à comprendre vos choix successifs entre l'Espagne et la France. Alors, vous nous direz ce matin comment vous voyez l'avenir de l'Europe et de la France. Comment voulez-vous aider Emmanuel Macron? Et comment comptez-vous, vous réinventer? Ce grand rendez-vous est toujours réalisé en situation de confinement. Vous êtes à distance à Minorque. Un salut également à nos partenaires donc de CNews. Nicolas Barré des Échos est chez lui. Et c'est lui qui vous pose la première question.
Alors bonjour Manuel Valls, Mickaël Darmon le rappelait, vous avez été Premier ministre entre mars 2014 et décembre 2016. À cette époque, la France avait déjà fait le choix de ne plus constituer de stock de masques, c'était jugé trop cher. L'idée était qu'en cas d'épidémie, nous pourrions toujours en commander en Chine. Est-ce que vous regrettez le choix qui avait été fait par notre pays à cette époque ?
Il faudra de toute façon revenir sur ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. Sur les prises de décision, sur les responsabilités des uns et des autres, les choix qui ont été faits en 2011 et en 2013 de décentraliser l'organisation des stocks de masques peut être évidemment questionné. Ce que j'ai compris, c'est que en 2012, il y avait à peu près un milliard de masques stockés, de ces masques dits stratégiques, notamment pour les personnels soignants et les personnels les plus exposés, et qu'en 2012, il y avait à peu près la même somme, le même nombre de masques. Mais tout cela devra être bien sûr vérifié. Mais ce que je veux dire sans et avec la plus grande modestie, l'humilité nécessaire et sans donner de leçons, mais c'est que aucun État n'était vraiment préparé à une telle pandémie. Aucun. Et personne, je crois, personne n'avait prévu, par exemple, de répartir des masques à tous les Français. Il y avait, bien sûr, des plans pour se préparer à des pandémies grippales. Quand j'étais Premier ministre, nous avons dû faire face à l'épidémie Ebola, au virus Ebola en octobre 2014. On a réagi parce qu'on avait des protocoles en mettant en place une task force qui était d'ailleurs pilotée par Jean-François Delfraissy, l'actuel président du Conseil scientifique. On a organisé un contrôle des passagers en provenance d'Afrique. On a procédé à des exercices de grandeur nature dans les hôpitaux. On a aidé, bien sûr, sur l'Afrique, la Guinée, le Libéria notamment, mais
ça
personne
nous
n'avait
alerter,
prévu une telle pandémie.
Ça aurait dû nous alerter sur tout ça, ce type de risque.
Oui, bien sûr, bien que les risques de pandémie étaient inscrits dans tous les textes du secrétaire général à la Défense nationale et à la Sécurité nationale, mais à un tel niveau touchant autant de pays, touchant tout le pays, et organisant la paralysie de son économie, non. Et alors, d'ailleurs, les pays qui étaient les mieux préparés, il faut le reconnaître, je pense notamment à la Corée du Sud, à Taïwan, dans une moindre mesure Israël, sont des pays, pour les deux premiers, qui ont déjà connu de telles pandémies et qui sont des pays aujourd'hui, de fait, en guerre.
Alors, Manuel Valls, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'avec ce virus qui est planétaire, eh bien, on voit comment chaque État réagit avec ses propres forces et ses propres contraintes. On s'en remet en France, beaucoup à l'État. Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi à l'origine une défaillance des services de l'État qui n'ont pas pu anticiper en termes de renseignements, ensuite de gestion par l'administration quand donc l'épidémie a commencé en Chine? De ce point de vue-là, est-ce qu'on n'a pas aussi une faillite des réseaux extérieurs, si on continue à comprendre un petit peu ce qui s'est passé encore pendant quelques questions?
Michel Darmon, vous citiez Clémenceau il y a un instant. Je vais vous le citer, moi également. Il disait que chacun sait que les critiques, d'après coup, ont pour principal avantage de vous mettre en état de prévoir ce qui est arrivé. Et cela rend la discussion plus aisée. Et c'est facile, après coup, de donner
des leçons. Dès son nom, un exercice de transparence sur ce qui s'est passé, vous faites.
Mais cet exercice, il est en effet indispensable. Alors, il y a eu partout, c'est vrai en France, c'est vrai en Espagne, c'est vrai dans de nombreux pays, des retards, des manques, des failles. Et il faudra tirer toutes les leçons. Mais disons la vérité. Il faut admettre une part d'ignorance. Nous connaissons peu de choses sur ce virus. Rien n'est clair, par exemple, sur les modes de transmission. Pardon de rappeler que l'OMS, les directions générales de la santé dans différents pays, les scientifiques et les médecins ont émis des analyses et des avis différents, voire contradictoires. Alors, moi, je crois que les gouvernements ont fait au mieux. Je crois qu'en France, le gouvernement et l'État ont fait ce qui devait être fait. Et c'est difficile. Et c'est aussi difficile de communiquer. Parce qu'en plus de la population, et c'est d'accord, normal, consomme de l'information toute la journée. Et toute parole se vaut notamment sur les réseaux sociaux.
Emmanuel Macron a annoncé un plan massif pour l'hôpital qui comportera notamment une revalorisation des salaires et des parcours de carrière des personnels soignants. Mais enfin, il aura fallu quand même... plus de 20 000 morts pour déclencher cette prise de conscience.
Sur l'hôpital, qui souffre depuis longtemps, qui bénéficie d'un soutien financier important, vous serez, vous, collaboré le premier à rappeler le niveau de dépenses pour l'hôpital public et pour notre système de santé. Je pense, de toute façon, non seulement il faut valoriser ses carrières et ses salaires de tous ces personnels qui sont en première ligne, qui sont les premiers de trancher, et pardon, je prends une seconde, nous le disons depuis des années, et c'est vrai que malgré les réformes, nous n'y sommes pas arrivés, comment notre système peut être basé davantage sur la prévention.
Alors justement, Emmanuel Valls, encore une question pour mieux comprendre. Au-delà des questions de rémunération, il y a toujours ce problème de fond qui n'est toujours pas traité. Vous y faites allusion, les services sont à flux tendu, les 35 heures ont désorganisé ou complexifié, l'organisation bureaucratique freine l'efficacité. Est-ce que ce n'est pas cela le plan massif que l'on attend, en quelques mots ?
Oui, sans doute, et une réorganisation plus générale de l'État, pour que cet État soit davantage stratège, agile, déconcentré. Il faut sans doute là aussi réinventer, mais c'est facile à dire maintenant, le temps long. Il faut sans doute un État plus agile au plan local et avec un véritable couple qui, à mon avis, doit mieux fonctionner entre le préfet départemental et le maire. Mais sans doute, oui, il faut une réorganisation du ministère de la Santé qui n'est pas suffisamment fort, qui n'est pas suffisamment armé. Mais il faut sans doute questionner l'organisation des agences régionales de la santé.
Et écouter peut-être ce qui émane du terrain également, ce que disent les soignants, qui sont écoutés.
C'est pour ça qu'il faudra un vrai retour d'expérience. On ne pourra pas régler ça en quelques semaines, au-delà de cette aide massive à l'hôpital et de ses rémunérations. Donc oui, il faut par exemple sur le grand âge, je pense que s'il faut se concentrer sur quelques grandes réformes, la question du grand âge, parce que en France, comme en Espagne, comme en Grande-Bretagne, il y a eu ce drame dans les EHPAD. Nous avons, et vous avez sur la table, l'excellent rapport proposé par Myriam, écrit par Myriam Khomri, qui a été adressé au gouvernement.
Ancien ministre du Travail, oui.
À la fin de l'année, qui était en effet ministre de mon gouvernement, sur toutes ces questions-là concernant le grand âge. Il y a le très bon travail de Jérôme Guedj, que je connais bien, qui est élu de l'Essonne. Donc, sur toutes ces questions-là, au-delà des procès, des polémiques, et puis aussi, au fond, de cet exercice de transparence indispensable, tirons toutes les leçons de ce qui vient de se passer, puisque nous savons que nous allons vivre longtemps avec ce virus et que d'autres pandémies, d'autres rebonds sont possibles demain.
Justement, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui.
Pour rester sur cette crise sanitaire, le gouvernement n'a pas suivi ce que préconisaient les scientifiques s'agissant, par exemple, des écoles. Les scientifiques préféraient une rentrée plutôt en septembre. Le gouvernement a fait un choix entre reprise de l'activité et santé publique. Il a choisi la reprise. Est-ce qu'il a eu raison ?
Oui. Je pense que l'avis des scientifiques est évidemment très important, même si parfois il a été, notamment sur la question des masques, contradictoire. Et puis je le répète, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et permettez-moi uniquement de dire un mot sur les comparaisons internationales. des chiffres et des bilans. Elles n'ont à ce stade que peu de sens parce que chaque pays compte selon ses critères. On a ce débat, par exemple, en Espagne. Et qu'à la fin, comme pour la canicule de 2003, seule l'étude de la surmortalité postérieure apportera évidemment sa part de vérité. Donc je crois que Emmanuel Macron, le gouvernement, les autorités politiques françaises ont eu raison de se lancer dans ce défi qui est sans doute le plus compliqué, qui a été une échelle jamais imaginée, qui est le défi du déconfinement qui se fera progressivement, avec souplesse, avec réalisme, et en essayant de régler un problème qui est, à mon avis, le plus épineux, qui est cette combinaison entre trois éléments, celle du retour au travail, celle de l'utilisation des transports publics, et notamment dans dans l'Île-de-France et dans les grandes métropoles, et le retour à l'école. Et donc, ces trois éléments combinés sont pour l'administration, mais aussi pour les citoyens et pour les entreprises, les éléments les plus difficiles à organiser. Mais je pense que le choix qui a été fait est audacieux, courageux, mais il fallait le faire.
Alors c'est justement cette combinaison et ces critères qui mettent une sorte évidemment de flou, d'incertitude, et qui sapent la confiance des Français. On le voit dans un sondage IFOP pour le JDD aujourd'hui, 39% des sondés pensent que le gouvernement ne peut pas faire donc confiance, ne peut pas être efficace pardon, face au déconfinement. C'est une baisse de 7 points. Les Français sont inquiets, ils ne savent pas où on va. De ce point de vue-là, comment tenter de les rassurer? Est-ce que c'est au fond pas impossible de les rassurer alors qu'on est en pleine crise?
Avec ce qu'ils vivent, cette crise sanitaire, le nombre de morts, parce que tous les jours, on nous donne des chiffres, mais derrière cela, il y a des réalités humaines épouvantables, un travail de deuil qui ne peut pas être réalisé, des gens qu'on ne peut pas enterrer sans les accompagner. Donc il y a une part de tragédie, et puis évidemment l'inquiétude qui grandit aujourd'hui sur la sortie du confinement, mais surtout sur la crise économique majeure. Les chiffres donnent le vertige quand on parle de chômage ou de pauvreté qui s'annonce. On va y revenir. L'histoire, vous savez, elle peut être tragique. Le rapport à la mort a changé. Je me rappelle d'un des derniers entretiens de Michel Serres qui rappelait que nos sociétés sont insouciantes parce qu'elles vivent heureusement sans guerre. Et nous retrouvons maintenant cette part tragique de l'histoire il y a quelques années avec le terrorisme qui n'a pas disparu et maintenant avec cette pandémie. Alors, moi je pense que le rôle, la responsabilité du politique, c'est de décider.
Alors, Manuel Valls,
beaucoup d'inconnus sur la nature du virus, sans regarder les sondages et en essayant, c'est vrai, de créer, c'est difficile, les conditions de la confiance. Mais en prenant, des objectifs qui étaient parfois incompatibles, impossibles en même temps, qui étaient, un, de sauver des vies, deux, de garantir les libertés publiques, c'est-à-dire aller et venir ou se réunir, et de maintenir l'activité économique et l'emploi en même temps.
Justement,
c'était impossible. Donc le choix qui a été fait est le bon, c'est-à-dire sauver des vies.
Justement, pour sauver l'économie, on se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos, Nicolas Barré, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Manuel Valls à distance en Espagne, qui donc nous accorde ce grand rendez-vous exceptionnel pour comprendre ce qui nous arrive et ce qu'il va arriver, sauver l'économie. Il y a eu un sommet européen jeudi. Il a montré qu'il n'y avait pas d'accord sur le financement de l'économie. Les pays du Nord refusent toute forme de mutualisation avec ceux du Sud. Est-ce que l'Europe peut mourir?
Oui, bien sûr. Elle est en tout cas face à son destin. Elle peut mourir, pour reprendre votre expression, ou pour le dire autrement, sortir de l'histoire. Elle a manqué de solidarité, notamment au début vis-à-vis de l'Italie. La présidente de la Commission a présenté ses excuses au nom de l'Union européenne, et elle a bien fait, mais la confiance à l'égard des institutions européennes est énormément dégradée en Italie, en France depuis longtemps, et même en Espagne, qui est un pays très pro-européen. Alors, reconnaissons que l'Europe a aussi réagi avec la suspension du pacte de stabilité, avec des soutiens aux plans nationaux de chômage partiel,
avec la fermeture
avec un engagement
des frontières,
très puissant de la Banque centrale européenne. Mais il faut que tout ceci marche. Il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, il faudra aller beaucoup plus loin. Et j'insiste sur un point sur lequel Emmanuel Macron est revenu cette semaine, mais aussi les chefs de gouvernement italiens et espagnols. C'est-à-dire, il faut bien sûr un compromis, et un compromis efficace, mais il n'y a qu'une seule idée qui doit dominer cette négociation et un futur accord. C'est la solidarité. C'est une Europe solidaire. Sinon, les égoïsmes, l'absence de vision sur ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire sur le fait que l'Europe peut mourir, tuera le marché unique, créera des inégalités. Donc, pour dire les choses simplement, il faut des transferts directs à travers une mutualisation de la dette au niveau européen. Il faut les transferts directs financiers qui représenteront plus de 1000 milliards d'euros pour les pays, les régions et les secteurs les plus touchés.
Nicolas Barré.
Alors, sur la vision, justement, pour reprendre votre terme, la Commission européenne dirigée par Ursula von der Leyen se veut géopolitique. Autrement dit, moins naïf qu'avant. Les concurrences chinoises et américaines sont identifiées comme des menaces. Est-ce que ça veut dire que ceux qui étaient aux commandes avant, dont vous-même, ont été trop naïfs dans leur vision des choses et dans leur vision du monde ?
Vous reprenez l'ensemble des interventions des dirigeants français, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ceux qui ont gouverné, Emmanuel Macron bien sûr depuis 2017, je ne vois aucune naïveté dans ces propos. Et nous avons tous dû faire face à la crise de 2008, à la crise de l'euro à partir de 2011-2012, à la crise terroriste, à la crise de l'immigration. Et la parole française a toujours été la même, c'est-à-dire prenez une Europe forte, puissante, souveraine. Et c'est vrai qu'au niveau national comme au niveau européen, nous devons retrouver pleinement notre souveraineté.
Oui, mais Emmanuel Valls, tout en empêchant des groupes de fusionner en Europe pour créer des champions, tout en laissant les Chinois, les Américains entrer, c'était ça la non-naïveté
Bien sûr, avec des règles parfois contradictoires avec cet objectif de souveraineté et le fait qu'il nous faut à tout prix retrouver notre indépendance industrielle, sanitaire avec la production de médicaments, numérique. Moi j'étais très impressionné par la longue note de Dominique Strauss-Kahn sur cette question-là, sur au fond notre indépendance numérique, les infrastructures essentielles pour la 5G, la fabrication de batteries par exemple pour notre industrie automobile, etc. Notre indépendance alimentaire, et c'est tout le problème de l'agriculture, notre indépendance en matière de défense, donc oui, notre indépendance stratégique. Et là est le principal défi. Et au fond, moi je les rappelle en quelques secondes, si nous voulons une Europe forte dans un monde instable, sans leader, soumis de plus en plus aux conséquences du choc entre les États-Unis et la Chine, et à des États-Unis qui ne jouent plus leur rôle de leadership. Et nous avons cinq défis. L'Europe solidaire, sinon elle crève, sinon elle meurt. Des États-Unis qui sont en retrait, je pense notamment à leur retrait de l'accord climatique de Paris ou à la mise en cause de l'OMS, à l'offensive chinoise majeure. Majeur, et nous ne devons pas être naïfs de ce point de vue-là, ce sont à la fois des partenaires, mais ce sont aussi des concurrents, parfois dans un certain nombre de secteurs, des adversaires. Le quatrième défi, je veux y insister, c'est la compétition entre les démocraties libérales, parce que la mort de l'Europe, c'est aussi la mise en cause profonde de la démocratie, et notre modèle, notre civilisation, qui allie économie de marché, état-providence, culture et démocratie, peut être mise en cause parce que certains pensent que des régimes autoritaires fonctionnent mieux, et il y a un pourcentage important de Français qui le croient. Et puis le cinquième défi, peut-être je vais le citer, c'est l'avenir du continent africain, si proche de nous. Et là, il faut investir massivement, parce que les conséquences économiques peuvent être
terribles. On va y révoquer effectivement toutes ces questions. Mais ce qu'on entend surtout, c'est la double incantation. L'Europe peut mourir, l'Europe peut sortir de l'histoire, mais l'Europe également a les moyens d'être forte. Donc on comprend qu'il y a vraiment un grand fossé. Aujourd'hui,
c'est pas une incantation seulement. C'est pas une incantation. Vous savez, moi je suis profondément européen. Je vis dans un pays, l'Espagne, qui doit tout à l'Europe.
Mais on va dire aussi,
c'est le plus
Manuel
beau projet
Valls.
Qui a tiré des leçons des drames,
mais
des
bien
guerres,
sûr. Mais aujourd'hui,
de la Shoah
du
XXe siècle. Donc il faut tirer toutes les leçons, sinon nous serons dominés tout au long du XXIe
siècle
pas
déjà le
par
cas.
Ces deux grandes puissances que sont la Chine et l'Amérique.
Manuel Valls, on va dire aussi tout simplement les choses comme elles sont. Au fond, ce que vous dites, c'est qu'il faut rétablir une sorte de ministère du redressement productif. Est-ce que c'est pas finalement, Arnaud Montebourg qui finalement aujourd'hui a raison, qui le prônait depuis le début, qui n'a pas forcément toujours été en phase ni avec vous ni avec sa majorité. Ça, on l'a bien compris, on l'a bien vu. Mais aujourd'hui, les événements ramène cette idée au centre.
Mais si ce ministère a existé, a été créé, c'est parce que François Hollande, à l'époque, l'a voulu. Et sur des choix industriels, il n'y avait pas de désaccord. Et puis honnêtement, à quoi bon revenir sur ces débats? Tout cela est dépassé, toutes nos certitudes, les siennes comme les miennes, sont, j'en suis convaincu. Si la crise que nous connaissons, c'est uniquement l'occasion pour dire « j'avais raison avant tout le monde », ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis la démondialisation, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, les échanges commerciaux vont continuer. Pourquoi des pays comme l'Algérie, le Nigeria, le Venezuela peuvent être déstabilisés, les gens peuvent connaître de la famine massive? Mais parce qu'il n'y a plus d'échanges commerciaux. Parce que la Russie, l'Argentine, le Vietnam ou le Cambodge n'exportent plus du blé ou des céréales vers ces pays, parce que le pétrole s'est effondré. Donc le monde, il va continuer à s'organiser. Ce qu'il faut, c'est réguler. C'est réguler ce capitalisme, c'est réguler la finance. Alors oui, là, c'est des incantations, parce qu'on voit bien que les grandes puissances ne veulent pas, mais c'est le rôle précisément de l'Europe, expliciter. Et en Europe, c'est le rôle de la France pour de porter ce discours.
Pour mieux comprendre encore, Nicolas Barré, une question.
Au fond, est-ce que cette crise, avec cette crise, on n'est pas en train d'assister à l'effondrement de certaines certitudes, vous citiez ce mot à l'instant, l'effondrement du cadre intellectuel dans lequel vous avez d'une certaine façon toujours vécu, rigueur budgétaire, Maastricht, frontières ouvertes, etc., qui sont aujourd'hui évidemment en train de, semble-t-il, passer au second plan dans les priorités des gens.
Oui, mais vous savez, nous sommes certains à dire que cette histoire, je le répète, peut être tragique, que la démocratie s'exerce dans l'État-nation, qu'on ne fait pas disparaître les frontières d'un trait de plume. Mais de l'autre côté, on voit bien que si on n'a pas un espace fort, un continent souverain, des politiques industrielles intelligentes, la protection de nos libertés fondamentales, et ça c'est l'Europe qui peut le porter, nous disparaîtrons. Alors bien sûr, il y a beaucoup de certitudes qui aujourd'hui sont dépassées par ces événements. Et on voit bien que d'un côté, il faut soutenir à tout prix nos entreprises, parce que c'est elles qui créent de l'emploi, et elles vont énormément souffrir, et derrière des millions de salariés. Et de l'autre côté, il faut investir massivement dans l'État et dans les services publics. Alors, l'homme de gauche, le républicain, le social-démocrate que je suis, l'européen que je suis, peut pas être face à ces changements et au fait que ces idées sont en train de s'imposer, peut pas être mécontent. Mais voir cette tragédie pour voir que beaucoup aujourd'hui sont d'accord avec ces grandes idées, même si l'application est extrêmement complexe, c'est évidemment triste.
Nicolas Barré.
Nous allons nous retrouver à l'issue de cette crise avec une montagne de dettes que devront payer nos enfants. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut augmenter certains impôts pour financer la relance, ponctionner des grandes entreprises, par exemple? C'est ça l'idée?
Il faudra du temps. Moi, j'ai pas des certitudes sur tous les sujets. Ce que je sais, c'est qu'il faut reconstruire, qu'il faudra reconstruire des secteurs entiers. Nicolas Barré, vous le savez parfaitement, il y a des secteurs qui vont énormément souffrir. L'aéronautique, on voit bien avec les aides massives, d'ailleurs, de l'État. Et moi, je salue l'action de Bruno Le Maire. L'industrie automobile qui va être amenée à changer, à se transformer. Airbus. Donc, il va y avoir des aides massives. Il faut qu'il y ait des contreparties puissante.
Pour l'instant, il n'y en a pas tellement. Sociale, hein, sur Air France, regardez, le gouvernement n'exige pas vraiment de contrepartie. Il ne remet pas en cause le statut du pilote.
Moi, j'ai entendu le ministre de l'économie clair sur ce sujet-là. Mais en tout cas, il faut ces contreparties environnementales, sociales, éthiques. Tout ce qui est dit notamment sur ces entreprises qui continuent à répartir des dividendes ou des entreprises qui sont dans des paradis fiscaux, il faut être extrêmement clair là-dessus. Mais d'une manière générale, les salariés,
en quelques mois avant la France.
Les Français, oui. Les salariés ne pourront pas payer deux fois. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas vivre le chômage, l'inquiétude par rapport à l'avenir, et voir leurs impôts augmenter pour financer la dette de demain, même si nous vivrons avec cette dette longtemps. D'où le rôle, bien sûr, essentiel de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne. Et il faudra un endettement massif et de très long terme. Et de très long terme. Alors, espèce de dette quasi éternelle.
Justement.
Mais je crois qu'il faudra, oui, une forme de solidarité. L'Allemagne, par exemple, a eu une forme d'impôt de solidarité au lendemain de la Deuxième Guerre pour financer sa reconstruction.
On va on va l'évoquer.
Oui, il faudra, d'une forme ou d'une autre, une solidarité et des contreparties, notamment des entreprises, qui vont bénéficier de cette aide publique massive.
On va continuer, bien sûr, à évoquer tout cela et savoir comment se réinventer, justement, à la sortie de la crise. On se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos. Nicolas Barré, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Manuel Valls, ancien Premier ministre, qui justement est avec nous ce matin. On évoquait il y a quelques instants justement la façon et les principes pour pouvoir donc se projeter dans l'après-crise et même, selon le terme aujourd'hui consacré, se réinventer. Nicolas Barré.
Oui, la France se prépare donc à sortir du confinement le 11 mai avec à la fois un sentiment de libération, mais aussi évidemment la peur de cette catastrophe économique qui est là. Et du côté de l'exécutif, on craint également des troubles sociaux. Est-ce que vous voyez un scénario d'explosion sociale ?
Vous savez, quand vous avez une crise sanitaire, une crise économique, des millions de chômeurs possibles quand on sortira du chômage partiel. Et en disant ça, je me rends compte du vertige que peuvent avoir tous ceux qui gouvernent et surtout ceux qui nous écoutent. L'augmentation de la pauvreté. Comme vous voyez donc, chômage plus pauvreté, plus dans une crise de confiance vis-à-vis des institutions et de la parole publique qui n'est pas nouvelle et qui existe dans la plupart des pays, avec une montée des populismes, des fake news. Donc, avec cette crise économique, sociale et démocratique, pour le résumer, bien évidemment, tout est possible. C'est pour ça, mais nous y reviendrons, c'est pour ça qu'il faut un État fort. Il faut que le sentiment de confiance soit assis sur un sentiment puissant d'égalité pour tous. La crise, on le voit bien, démontre aussi les injustices.
Justement,
et effectivement. Et la sortie, d'ailleurs, et par l'école, par rapport à l'école, par rapport au savoir, et la sortie d'ailleurs du confinement peut révéler davantage ces inégalités avec ceux qui devront aller travailler. Donc bien sûr tout ceci, les inégalités créeront bien sûr des mouvements sociaux, de la colère, de la rancœur. Donc il faut être très à l'écoute et il faut que toutes les politiques publiques basées sur l'unité nationale, nous y reviendrons, luttent contre les inégalités.
Est-ce que c'est
Manuel Valls, ce sentiment d'égalité qui est une passion française?
Manuel Valls, est-ce que justement c'est des réorganisations pour vous sont à craindre dans les entreprises? Est-ce que justement la manière dont le travail peut se réorganiser suite à l'expérience du télétravail peuvent provoquer des licenciements?
Il faudra les éviter. Mais ça va être très difficile, mais il faut évidemment les éviter. C'est tout le sens d'ailleurs de l'aide publique. Et c'est aussi l'idée, et je pense que c'est le défi pour le gouvernement, c'est aussi le pari d'Emmanuel Macron, c'est que l'activité économique reprenne progressivement, précisément pour que les dégâts soient les moins considérables. Mais ça sera très difficile pour le tourisme, la restauration, les cafés, le secteur de la culture, je veux le souligner, qui est très profondément touché, le secteur événementiel, sur tous ces sujets-là. Là, bien sûr, il y a des risques. Mais il faut aussi qu'il y ait beaucoup de responsabilités de la part du patronat, des chefs d'entreprise, des partenaires sociaux. Parce que comme nous sommes dans une guerre, vous avez commencé l'émission comme cela, il faut que tout le monde se comporte avec un grand civisme. Et encore une fois, avec ce sentiment que, attention, ce qui est en jeu, c'est pas seulement l'Europe, mais c'est aussi notre modèle social, notre manière de vivre ensemble. Les Français
justement,
voient bien qu'on va vivre très longtemps avec ce virus et que c'est la démocratie qui est en jeu.
Nicolas Barré.
Autre effet néfaste du confinement, on voit que la situation se tend dans certains endroits. Ça fait une semaine qu'on assiste, par exemple, à des scènes de violence urbaine dans certaines banlieues françaises avec des commissariats attaqués, des policiers agressés, de plus en plus de gens qui défient le confinement. Est-ce que ces problèmes qui, en quelque sorte, étaient sous cloche, vous craignez qu'ils ressurgissent encore plus violemment ?
Ce que me disent beaucoup d'amis, de nombreux élus, je pense évidemment à Stéphane Baudel, maire d'Ivry-Courcouronnes, ou à Francis Choix, qui est le député de cette circonscription, dont j'ai été le député pendant plusieurs années, c'est que les habitants des quartiers populaires sont, comme tous les autres Français, respectueux du confinement. Alors, tout le monde doit respecter le confinement, tout le monde. Et on voit bien que dans les quartiers populaires, il y a bien sûr des tensions particulières liées au trafic de drogue, liées tout simplement, là ça touche beaucoup de monde, au fait que les gens vivent dans des conditions plus difficiles. Mais il n'y a pas d'excuse. Le rôle des forces de l'ordre, c'est de faire appliquer le confinement fermement.
Le syndicat général...
Les mises en cause de la police ne sont pas acceptables.
Manuel Valls. Oui, le syndicat général, justement, pour préciser votre pensée, le syndicat général de la police et le syndicat Alliance, qui est majoritaire chez les gardiens et les gradés, dénoncent je cite, un confinement à deux vitesses avec des instructions de quitter les lieux, je cite toujours, pour éviter les heurts. Vous avez été ministre de l'Intérieur. Au fond, est-ce tabou d'avouer qu'il y a des zones où la police, parfois, renonce à faire respecter l'ordre ?
Non, je pense qu'il ne faut pas que la police renonce à être présente. La République, elle doit être partout. C'est difficile pour les forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie ou police municipale. Moi, je garde un lien avec les élus et les amis d'Evry et je vois le travail que, par exemple, dans ces quartiers compliqués, difficiles, complexes, la police nationale et la police municipale font. Mais vous me permettez d'être peut-être clair et d'évoquer l'essentiel. Parce que, au fond, moi, je ne nie pas cela. Il faut jamais nier les problèmes. Parce que les Français les vivent. Et ils n'accepteraient pas qu'on cache un problème. Et il y a une réalité que vous venez d'évoquer, qui est incontestable et qui va être encore plus difficile dans les semaines qui viennent avec tout ce processus de sortie du confinement. Mais les habitants de ces quartiers sont touchés beaucoup plus que les autres par la crise sanitaire. Ils continuent de travailler pour beaucoup. Ce sont ces caissières, ces chauffeurs livreurs, ce sont ces aides-soignants qui vivent aussi dans ces quartiers.
Et que l'on voit le matin dans les métros, il n'y a pas de gestes barrières pour eux, il n'y a pas d'organisation sanitaire. Et c'est
peut-être
encore comme
ça. Donc, ils vivent avec cela. Ils vivent avec ça. En plus,
est-ce que le gouvernement ne peut pas mieux organiser de ce point de vue-là ?
Souvent, ce qui était souvent, et c'est dans tous les rapports sur la Seine-Saint-Denis, c'est souligné. Ils ont des pathologies associées. Ils ont moins de facilité dans l'accès aux soins. Ils vivent en proximité forte avec la question du mal logement. Et l'absence d'école est dramatique pour les enfants et les parents, et notamment les familles monoparentales, c'est-à-dire ces femmes en général qui élèvent seules leurs enfants. Il y a aussi davantage de violences familiales. Moi, j'étais très impressionné par ce que Olivier Klein, le maire de Clichy, a dit là-dessus. Il faut du coup être d'autant plus présent dans ces quartiers pendant la crise. Et l'État a bien réagi, notamment sur la mise à l'abri, l'aide alimentaire, parce que là aussi, il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Le repas à l'école était souvent le repas, ou le seul repas, ou le repas en tout cas le plus équilibré. Donc, dans ces quartiers où il y a davantage le problème de pauvreté, il faudra mettre encore davantage le paquet. Sinon, oui. Le fameux apartheid territorial et social que j'avais dénoncé continuera, avec les effets de la crise, à faire
vous
des
dites,
dégâts
considérables. Oui, vous dites, Manuel Valls, l'État.
Je ne nierai jamais les problèmes de sécurité, Michael Darmon, je ne nierai jamais les problèmes de sécurité, bien évidemment. Mais moi, j'écoute aussi ce que me disent les élus de ces quartiers, Klein, Baudet et bien d'autres. Il faut mettre le paquet parce que c'est là où les effets de la crise vont être considérables.
Voilà, vous dites, il faut mettre le paquet. Vous dites, vous écoutez les élus. Mais ces mêmes élus disent, on ne fait pas confiance en l'État. On n'a pas les masques, on n'a pas les tests, on n'a pas les consignes de sortie. Et on voit bien qu'effectivement, ces personnels et ces personnes de la deuxième ligne sont ceux qui sont les plus désavantagés. Donc,
oui,
au fond,
c'est pour ça
est-ce que vous ne demandez pas aussi que ça change ?
C'est pour ça qu'il faut leur faire confiance. Je pense que au début du quinquennat, il a manqué parfois ce rapport de confiance avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les partenaires sociaux et avec les élus. Ça a été largement corrigé depuis. Il faut leur faire confiance. Et l'opération de retour à l'école, dans quelques jours, dans ces quartiers, est essentielle. Avec toutes les précautions qu'indique le conseil scientifique et que va mettre en œuvre notamment le ministre de l'Éducation et écoutera le Premier ministre mardi à l'Assemblée nationale. Mais c'est là où ça se joue, parce que le retour à l'école, pour que les gens puissent aller travailler, pour qu'on sorte des logements exigus, est tout à fait essentiel. Et donc là, il y a dans ces quartiers, je pense, une priorité. Si le retour à l'école, au travail, l'utilisation des transports publics avec tous les gestes barrières et toutes les précautions nécessaires doit se réaliser dans les meilleures conditions, c'est partout bien sûr au nom de l'égalité, mais là dans ces quartiers il y a bien sûr au nom de la justice sociale, de l'égalité, il y a là un devoir de réussite et d'exemplarité.
Et pour effectivement rassurer des Français qui disent ces discours-là, beaucoup parfois aussi sont là pour habiller, voire masquer une pénurie, donc on va suivre effectivement la suite. Nicolas Barré.
Manuel Valls, vous avez souvent dénoncé le communautarisme. A-t-on reculé en la matière dans notre pays depuis que vous avez quitté Matignon ? Je vous pose la question parce qu'il est toujours aussi difficile, voire davantage, pour les femmes de se promener habillées comme elles le veulent dans certains endroits, même dans certaines rues de Paris. Est-ce qu'on a reculé en la matière ?
Ah, je crois que dans de nombreux quartiers, l'islam radical, le travail des salafistes, qui d'ailleurs peuvent utiliser cette situation pour essayer là aussi de s'implanter davantage. Oui, la République, la laïcité, mais depuis longtemps, ont reculé. Moi, c'est pour ça que j'ai salué le discours d'Emmanuel Macron, aujourd'hui un peu oublié, parce que c'est juste avant la pandémie, mais son discours de Mulhouse sur la nécessaire lutte contre l'islam radical. Mais ce sont pas des mots. C'est plus de République, plus d'écoles, plus d'égalité, plus de moyens pour ces quartiers, aucune naïveté par rapport à ce qui se passe dans certains quartiers. L'égalité femmes-hommes, c'est un principe fondamental. Regardons aussi ce qui se passe dans les prisons. Retravaillons, relisons les travaux du groupe Micheron sur ces questions-là. Donc il y a un énorme travail à faire.
On entend votre discours, Manuel Valls, mais c'est peut-être là aussi où parfois vous avez été le plus mal compris, parce que certains disent vous avez stigmatisé, vous n'avez pas au fond donné de solution, vous avez identifié des problèmes sans aller à la racine. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ?
Ah, moi je suis prêt à me réinventer, à reconnaître que parfois mes mots n'ont pas été toujours justes, en tout cas incompris. Enfin, sur la nécessité de faire vivre la République, de mettre le paquet sur l'école, de faire vivre nos principes, notamment la laïcité, de jamais confondre d'ailleurs l'immense majorité des musulmans qui maintenant commencent le ramadan avec cet islamisme, cet islam radical, ces groupes qui veulent précisément faire sécession. Donc là il faut des moyens, et les services publics, l'État, la police, l'école, les services sociaux, l'emploi ont un rôle à jouer. C'est difficile, je le comprends, parce que les Français entendent cela depuis des années, mais nous n'avons pas d'autre choix que de réussir et de continuer ce travail de récupération de la République dans ces quartiers. Il n'y a pas d'excuse sociale, mais reconnaissons que la pauvreté et les inégalités offrent un terreau énorme à tous ces groupes. Donc là, il y a un défi, et notamment je pense qu'il y a un défi un peu partout dans les quartiers populaires, mais un défi très particulier pour le département de la Seine-Saint-Denis. Ça n'est pas nouveau, mais il faut continuer à y travailler avec les élus, parce que le travail de confiance là avec les élus est essentiel. Je vous parlais tout à l'heure du couple préfet départemental maire et les élus en général, départementaux, régionaux. Là, ils sont la sève de la République. Pour parler avec beaucoup d'eux, de gauche ou de droite, je sais leur travail. J'ai été moi-même maire pendant 11 ans dans une ville difficile, merveilleuse, mais difficile.
On va continuer à en parler, on se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos, Nicolas Barré, Mickaël Darmon.
On vous retrouve pour ce grand rendez-vous. Manuel Valls, ancien Premier ministre, vous avez été justement au moment des attentats en situation à Matignon. Le 13 janvier 2015, vous avez prononcé un discours à l'Assemblée sur la nécessité de dépasser les clivages et de s'unir pour sauver la République. Aujourd'hui, Emmanuel Macron cherche à réunir les conditions de l'Union nationale pour sauver le pays. Est-ce que vous êtes prêt à l'aider ?
Oui, bien sûr, tous, d'une manière ou d'une autre, il faut aider à l'unité nationale. Parce que nous avons besoin d'unité nationale. Mais ce n'est pas un problème personnel.
Vous dites unité, vous pas union, hein ?
Oui, je parle d'unité nationale, enfin, c'est une nuance. Je ne crois pas un gouvernement avec tout le monde. Mais l'unité nationale, c'est un état d'esprit. Et d'ailleurs, il est imposé par l'attitude exemplaire des Français dans cette période. Et c'est une question de respect, de concorde, d'apport constructif de chacun. Ce n'est ni un accord d'appareil, et encore moins un casting. Et cette unité, elle se construira, je crois, par le dialogue avec le peuple, ça c'est le rôle du président de la République, avec les forces vives du pays. Et c'est pour ça que, je crois honnêtement, mais nous en avons parlé, l'heure n'est ni aux procès ni aux polémiques, mais il faut saisir cette opportunité terrible pour se réconcilier, je crois, autour d'un projet commun qui est un projet de reconstruction. Alors soyons précis, c'est au président de la République d'indiquer le chemin. Il est le président, élu par le peuple en 2007, et c'est l'esprit des institutions de la Ve République qui l'oblige. Et dans ce moment historique, il doit indiquer les axes de ce chemin pour la reconstruction et pour l'unité, au-delà même des responsables politiques, d'un maximum de Français autour de cette idée, de ce projet de reconstruction. Moi, je crois qu'il a l'audace et le courage qui sont ses qualités pour le faire. Je suis convaincu qu'il sait qu'il devra le faire. Et nous n'avons pas d'autre choix que de prendre ce chemin de la reconstruction et de l'unité.
Nicolas Barré.
D'accord. Manuel Valls, vous aviez dit que vous quittiez la politique française pour vous impliquer dans la politique à Barcelone. Alors, vous n'avez pas été élu maire de Barcelone. Maintenant, vous dites il faut participer à cette union nationale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pourriez revenir dans un gouvernement?
Je n'en sais rien.
C'est la question que se posent tous les Français quand ils vous écoutent à chaque fois.
Oui, bien sûr, mais ça serait indécent. Je l'ai dit il y a peu de temps. Ça serait indécent aujourd'hui de dire que c'est un problème de casting. Je le dis très, très franchement, ma participation ou non à un gouvernement n'a aucune importance. C'est un détail.
Mais vous croyez que les Français croient ça quand on vous entend? Vous avez été ancien Premier ministre. Comment aider le président? Écrire des livres, faire des conférences, c'est quoi? Ou être dans l'action politique?
Mais en m'exprimant encore ce matin, en démontrant que quelqu'un qui a eu un autre parcours que celui d'Emmanuel Macron, avec des rapports qui parfois ont été difficiles...
Les relations se sont améliorées.
...veut participer de cette unité. Mais ils n'ont jamais été dégradés. Et puis Emmanuel Macron a d'autres chats à fouetter, et encore davantage aujourd'hui. Mais moi, je suis libre. Je suis heureux dans ma vie. Nous avons évité que Barcelone tombe, malgré le score qui a été le mien, dans les mains des indépendantistes. Je fais mon travail de conseiller municipal. Je m'intéresse à ce qui se passe en France. D'abord, ma mère y vit. Mes enfants sont confinés à Paris et à Évry. J'ai des amis. J'ai des amis qui sont morts à cause du Covid-19, qui ont disparu. Et j'ai envie de leur rendre hommage, je l'espère, le plus vite possible quand je reviendrai en France. Pour cela, j'aime la France. C'est ma patrie. J'y ai exercé des responsabilités. J'ai une vision européenne avec ce qui se passe en Espagne et en France et ailleurs. Mais ce qui se passe en France, pour moi, est essentiel. Parce que la France est un grand pays. Et qui s'adresse au monde avec des valeurs universelles. Son rôle avec l'Allemagne est essentiel pour sauver l'Europe, et je me tairai, on verra ce qui va se passer, mais je suis libre, et donc je fais état de mes réflexions, je parle avec les uns et
pour
avec les autres.
Pour continuer vos réflexions.
Je suis malheureux parce que le courant de la gauche réformiste est peu représenté dans le débat public, mais parce que je suis un homme de gauche, un républicain et un patriote, Je donne mon avis et je dis, un, il faut réussir le déconfinement. Deux, il faudra rendre un grand hommage aux victimes et aux premiers tranchés, parce que ça, c'est deux préalables avant d'engager cette reconstruction. Et puis après, je pense, et c'est au président de la République de le faire, c'est s'accorder avec les forces politiques, économiques, sociales et avec les Français sur l'objectif de ce pacte de reconstruction qui doit être économique, social, écologique, avec des chantiers prioritaires. Et ces chantiers prioritaires, c'est l'Europe, ça c'est le préalable, sinon rien ne sera possible. C'est de s'accorder sur les questions que Nicolas Barré évoquait il y a un instant, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la dette, du déficit public, qui paye à la fin. Et c'est sur la reconstruction industrielle du pays, avec cette idée de souveraineté dans les secteurs que j'évoquais
comme on a évoqué
tout à
effectivement.
Ces normes environnementales et sociales.
Pour avancer,
c'est
oui.
La question des salaires et du pouvoir d'achat. C'est la question du grand âge. Et donc, sur tous ces sujets-là, sur tous ces chantiers, il y en a d'autres, moi je vous donne que mes idées, ces chantiers ramassés essentiels, oui, il faut, à travers une méthode, un agenda,
en
des financements, un dialogue,
oui,
des accords
Manuel
avec
Valls,
les partenaires sociaux, reconstruire.
En attendant, il faut effectivement réussir ce déconfinement. Cette doctrine du déconfinement sera, selon les termes officiels, national et en même temps déclinée localement. On le voit bien, on le sent, on l'entend, ça ne rassure pas les élus locaux, on entend la méfiance des maires, des présidents de région. Est-ce qu'il ne faut pas plus laisser la main aux élus locaux, comme en Espagne d'ailleurs, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut se réinventer, est-ce que ça veut dire qu'il doit aussi un peu lâcher du lest, faire plus confiance?
Non, mais c'est le même débat et c'est les mêmes principes avec des histoires différentes en France, en Allemagne ou en Espagne. Il faut des principes généraux. Écoutez, la passion française, c'est l'égalité. Si les Français ont le sentiment, et on l'a vu notamment sur la question du grand âge, et il y a une bonne réaction du président de la République. On ne pouvait pas créer une espèce d'apartheid pour les personnes âgées. On a raison de prendre des risques. Enfin, en tout cas, c'est un défi. Les enfants doivent retourner à l'école, mais progressivement, avec de la méthode. Et puis, s'il y a de nouveau une épidémie sur un territoire, sur une ville, on réagira bien évidemment. Il faudra de nouveau, dans ces secteurs-là, se confiner. Donc, il y a toute une méthode. On tâtonne, on se trompe parfois. C'est normal. Là, la politique, c'est un métier difficile. Mais il y a un effort collectif, là, à réaliser. Et donc, il faut des principes généraux, ce principe d'égalité devant la loi, devant ces principes. Et puis ensuite, il faut l'intelligence nécessaire.
C'est pas une critique en creux de ce qui se passe
dans
ce moment-là.
Dans un département rural, on n'agira pas de la même manière que dans un département urbain ou dans une grande métropole avec ses problèmes de transport. Mais je pense qu'il y a un effort collectif. Et moi, je connais le goût des Français pour la division, pour le débat, pour la critique.
Le débat, c'est pas forcément la division, c'est une démocratie qui vit.
Oui. Mais et c'est bien, je trouve que c'est très bien notamment que le chef du gouvernement aille s'exprimer de nouveau devant l'Assemblée et qu'il y ait un vote après. C'est très bien. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, et toutes les comparaisons ayant évidemment leurs limites, Clémenceau critiquait l'action du gouvernement, mais au sein du Parlement, et en l'occurrence au Sénat. Churchill allait devant la Chambre des communes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est normal, c'est bien que la démocratie vive, mais... Parce que les Français ont été formidables, d'ailleurs comme les Espagnols et comme tous les peuples, respectant en général le confinement, acceptant une privation de liberté fondamentale, celle de pouvoir aller et venir ou de se réunir, il faut que nous continuions cet effort. Et c'est vrai qu'il appartient au gouvernement, mais à l'ensemble du champ politique, économique et social, de redonner et de donner de la confiance. Et c'est l'élément essentiel de se réunir autour de priorités qui rassemblent. Vous savez,
et
on peut être très pessimiste.
Oui.
On peut être très pessimiste sur ce qui va se passer, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, crise économique, crise sociale, crise politique, mais cette crise peut aussi nous aider et nous unir davantage. Et donc moi, je vais être optimiste. Il y a aussi des éléments positifs de cette crise. Alors, utilisons-les, cette solidarité, ce soutien aux professions qui sont en première ligne, pour recréer de la confiance, de la solidarité, de la force pour ce pays qui est un grand pays.
Nicolas Barré.
Dans une période de crise comme celle-ci, pensez qu'il faut des personnalités à poigne. Vous avez une personnalité qu'on pourrait appeler clivante. Est-ce que dans ces circonstances de crise, vous pensez que vous pourriez mieux vous faire comprendre des Français ?
Vous avez toutes les certitudes étant remises en cause, je le disais tout à l'heure, et comme on doit faire tous preuve d'humilité et de modestie, je vous dirais, je ne sais pas. Moi, défendre une certaine idée de la République, du progrès, l'idée d'ailleurs de réhumaniser profondément la société, maintenir ce lien humain, c'est quand même ce que cette crise nous montre, cette importance vitale de ce lien humain. Donc c'est ça, être de gauche, être républicain, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité, être européen parce que c'est un espace de civilisation, la culture, la santé, la démocratie, c'est cet espace de civilisation que nous devons défendre par rapport aux régimes autoritaires comme la Chine ou aux populistes qui, honnêtement, en plus, Trump et Bolsonaro réussissent pas vraiment dans cette crise. Bon, donc, de gauche, républicain, européen, démocrate profondément, je pense que c'est autour de cela. Donc, moi ou un autre, peu importe. Ce qui compte, c'est que ces valeurs qui sont celles de la République et de la France soient mises en œuvre et avec une volonté, encore une fois, d'unité. La démocratie va pas disparaître. Il y aura beaucoup de candidats aux élections municipales, régionales, départementales, présidentielles, législatives des prochaines années, bien évidemment. Mais l'histoire, je le répète, peut être tragique. On est dans un moment où tout peut basculer. L'Europe, la démocratie, et pourtant il faut se battre pour l'Europe et pour la démocratie. Donc soyons attentifs, c'est un moment extraordinaire.
Effectivement.
Et c'est pour ça que je m'exprime.
Oui,
et c'est pour ça que j'aime mon pays. Pour ça que d'une manière ou d'une autre, on peut être utile. Mais on peut être utile de mille manières.
Effectivement, et on va donc suivre de manière très attentive comment vous allez continuer à vouloir vous réinventer et où va-t-on bientôt vous retrouver. C'était le grand rendez-vous de Manuel Valls. Merci beaucoup. À dimanche prochain.